De ses jalons.
Joe Biden avait promis de faire un voyage officiel en Afrique. Il s'exécute in extremis. Mercredi, le président américain a repris l'avion pour les États-Unis au terme de ce déplacement de 2 jours.
Et voilà, le décor est planté. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de la ville américaine de Chavali. Sona Konaté, activiste d'origine guinéenne, médecin épidémiologiste, chef de programme au département de la santé du comté de Prince George dans le Maryland. En direct de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi et de l'État américain du New Jersey, Léonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton. Il est également directeur fondateur de l'Institut de recherche empirique économie politique basé au Bénin. Léonard Wanchekon, je commence par vous. Le voyage de Joe Biden à quelques semaines de la fin de son mandat est-il une initiative sincère pour réengager les États-Unis en Afrique ou un geste symbolique pour rattraper des années de désengagement, symbolique ou stratégique, qu'en pensez-vous?
Peut-être un peu des deux, c'est-à-dire symbolique, parce que bon, c'est difficile de comprendre pourquoi on a attendu aussi longtemps, mais c'est stratégique parce que c'est vraiment nécessaire de faire la compétition, si vous voulez, avec la Chine. En ce qui concerne la contribution au développement de l'Afrique et la place de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. Donc les deux projets phares, ou du moins le projet phare donc, qui a fait l'objet de ce voyage, notamment le corridor de Lobito, c'est extrêmement important. J'espère que ça va servir de modèle pour l'engagement des États-Unis et d'autres pays pour l'avenir. Donc on pourra en parler, disons, un peu plus.
Effectivement, le projet ferroviaire du couloir de Lobito est décrit comme un investissement historique pour le continent africain, un projet qui concerne donc l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et la RDC, votre pays, Frédéric Amani. Mais dans quelle mesure ce chantier profitera-t-il réellement aux populations de tous ces pays, voire d'autres du continent ?
Cela dépendra du leadership que les dirigeants africains, notamment les dirigeants congolais, vont imprimer pour qu'ils tirent profit de cette interdépendance qui se noue entre les États de la sous-région, mais aussi avec les États partenaires, dont notamment les États-Unis. Parce que les États ne se font pas des cadeaux en relation internationale. On souhaite la bienvenue aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, mais tout dépend de la capacité des États hôtes à imprimer une diplomatie agissante, une coopération gagnant-gagnant pour que leur population puisse en tirer profit. Sinon, ce sera s'inscrire dans une diplomatie suivisme où on sert des passerelles pour les autres pour tirer profit. Et nous pensons que les autorités congolaises vont étudier cette question avec beaucoup de lucidité pour que cette coopération avec les États-Unis, avec l'Angola et avec les États de la sous-région puisse profiter au peuple congolais et au peuple de la sous-région de l'Afrique australe.
Sona Konaté, l'annonce d'un milliard de dollars d'aide supplémentaire aux victimes de la sécheresse est-elle une réponse adéquate à la crise climatique en Afrique australe? Est-ce une aide humanitaire tardive?
Bonjour à tout le monde. Je crois que c'est une aide est toujours une très très bonne chose, mais en ce qui me concerne, je crois qu'elle est un peu plutôt tardive. Cela relativement au mandat du président Biden à la fin de mandat. Quoi qu'il fasse en ce moment, ce sera toujours vu comme un acte désespéré de marquer l'histoire ou bien de blanchir un peu son bilan. Sinon, nous savons qu'en ce moment, en Afrique, avec tous les conflits politiques, géopolitiques, socio-économiques, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien bonne. Mais l'Afrique ne doit plus être vue comme ce dépotoir où on peut offrir de l'aide par-ci, par-là et calmer toutes les turbulences en un moment. Je crois que ce sera plutôt une stratégie qu'il faudra plutôt mettre en place avec un respect mutuel et pour responsabiliser tous les deux côtés pour que cette aide soit utilisée à bon escient, mais pas un acte désespéré de dernière minute en vue de restaurer un blason à travers, pendant voilà, ce volcan que traverse voilà, le président actuel des États-Unis.
Leonard Wanchekon, en quoi cette visite du président Biden en Angola peut-elle être perçue comme une tentative de contrecarrer l'influence comme la Chine et la Russie en Afrique subsaharienne? Les États-Unis offrent-ils une véritable alternative ou une réplique moins ambitieuse?
Bon, je pense que je vais me concentrer sur le projet ferroviaire dont vous avez parlé. Tant que c'est un bon modèle de développement, en ce sens que ça va booster le commerce intérieur, mais il faut que, comme mes collègues l'ont dit, le gouvernement, donc la sous-région en profite pour créer, par exemple, un réseau d'infrastructures routières qui permettent aux villages les plus reculés de connecter. Et puis ensuite, c'est important que cela booste le commerce régional, donc en pays. Maintenant, c'est très important que, au contraire de la Chine, par rapport à ce que la Chine fait, que ces investissements puissent vraiment être accompagnés de l'utilisation des talents locaux. Par exemple, les ingénieurs locaux, les cabinets d'études locales, locaux, puissent être mis à contribution. Et ensuite, il faut que ces investissements soient faits dans un but de développer, le savoir, l'innovation dans le long terme. Parce que les États-Unis ont un potentiel énorme sur ce plan-là. Donc, en fait, moi, je vois les choses beaucoup plus du point de vue de comment on peut utiliser ces investissements pour booster le développement, les infrastructures, l'innovation, c'est ça. Donc, comme le collègue l'a dit, c'est très important qu'il y ait un accompagnement local, un accompagnement politique local pour ces investissements qui sont faits par les États-Unis.
Alors que l'Angola est régulièrement critiquée pour ses atteintes présumées aux droits humains, des ONG comme Human Rights Watch se demandent si cette question a été abordée par Joe Biden avec son homologue angolais, João Lourenço. Frédéric Amani, ce sujet a-t-il été minimisé, oublié? Si oui, pourquoi d'après vous?
Bien, je crois qu'il n'a pas été minimisé. Vous le savez bien, les États-Unis est un pays qui prône les valeurs démocratiques, notamment le respect des droits humains, la démocratie. Mais du fait qu'il est, excusez-moi l'expression, au soir de son mandat, parler de cette question alors que la visite était beaucoup plus stratégique pour contrer l'expansion de la Chine et des autres pays émergents, mais aussi... le problème, c'est que le président Biden est remplacé par un démocrate qui, lors de son premier mandat, il n'a pas montré sa volonté, n'est-ce pas, d'investir en Afrique. Et parler de cette question des droits de l'homme, bien que l'Angola fait un mauvais élève en cette matière, ce serait, n'est-ce pas, brouiller les stratégies que Biden voulait mettre en place pour tirer profit de ces couloirs de l'hôpital. Je crois que la question n'a pas été minimisée, mais le temps... Et surtout qu'il est remplacé par un démocrate qui n'avait pas, dans le premier mandat, montré sa volonté d'œuvrer pour l'Afrique. Mais je pense que cette fois-ci, Donald Trump va s'intéresser de cette question d'une manière ou d'une autre.
Docteur Konaté, vous êtes ici aux États-Unis. Vous avez peut-être vu que les grandes chaînes de télé américaines, NBC, ABC, CBS, ont à peine couvert ce voyage, reléguant au second plan son caractère historique. En fait, en début de semaine, elles se sont focalisées sur la décision jugée controversée de Joe Biden d'accorder la grâce présidentielle à son fils Hunter. Cela connaît la question, cette décision a-t-elle affaibli l'impact diplomatique de ce déplacement en Afrique et que dit-elle sur les priorités de l'administration Biden à ce stade de son mandat?
Voilà, merci pour cette question. Je crois que, en fait, le pardon à son fils a vraiment galvanisé les conservateurs maintenant et a mis des flèches à leur arc, en fait, pour pouvoir mieux attaquer les démocrates. Vous vous rappelez qu'à l'époque, Joe Biden avait promis ne pas interférer avec la décision de justice de son fils. Et peut-être n'envisageait-il pas un changement peut-être de pôle politique? N'envisageait-il pas que son mandat allait être à terme en si peu de temps, après 4 ans seulement? Et donc, le fait qu'il ait décidé de pardonner à son fils a vraiment, vraiment mis une grosse tache d'huile sur la fin de son mandat et sur tout ce qu'il pourrait aspirer à accomplir en ce dernier moment. Comme vous avez vu, comme vous l'avez dit, ça a vraiment fait ombrage à toute sa volonté politique, le fait qu'il soit parti en Afrique pendant ces dernières minutes. Lorsque le dernier président y a été en 2015, c'était une très bonne chose, mais comme on le dit, le fait que son fils Hunter Biden a été au milieu de toutes ces controverses, accusé à tort ou à raison, et qu'il puisse, en tant que père président, lui pardonner, a été vraiment vu de manière... une grande polémique.
Voilà. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause.
Nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Football B.
Dans The Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans The Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day.
Restez de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 5 décembre 2024. Gros plan sur le séjour du président américain Joe Biden en Angola entre lundi et mercredi dernier, après une brève escale au Cap-Vert, son premier et unique voyage diplomatique sur le continent africain au cours de son mandat qui arrive à terme le 20 janvier prochain. Je vous propose maintenant quelques commentaires à Facebook. Oumar Diallo de Bamako au Mali, c'est maintenant qu'il vient en Afrique, dommage pour nous. Yao Marcelin, Kofi d'Abidjan, Côte d'Ivoire, c'est un voyage utile dans le repositionnement des États-Unis sur l'échiquier continental, où les influences de la Chine, la Russie et la Turquie ne font que se consolider. Le président Trump pourra-t-il relever ce défi? Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, le voyage du président Biden s'inscrit dans cette logique d'amélioration de la diplomatie et d'avantages économiques face à la Russie et la Chine qui gagnent du terrain en Afrique par leur partenariat gagnant-gagnant. Elles, c'est-à-dire la Chine et la Russie, visent les pays africains ayant des sous-sols riches. Alphonse Mbouaki de Kinshasa, RDC, la première visite de Joe Biden intervient dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique, bien que l'on ne sache pas encore si la future administration Trump poursuivra le couloir de Lobito. J'estime que le projet pourrait survivre à la présidence Trump car il vise principalement à concurrencer la Chine. Et voilà pour ces commentaires à Facebook. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités avec nous depuis la ville américaine de Chevelly, Sona Konaté, activiste d'origine guinéenne, chef de programme au département de la santé du comté du Prince-George dans le Maryland. De la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, et de l'État américain du New Jersey, Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton, lauréat du prix de l'économie mondiale 2023 de l'Institut Kiel. Leonard Wanchekon, avec le retour du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche, les Africains peuvent-ils s'attendre à une continuité dans les initiatives économiques et diplomatiques amorcées par le démocrate Biden, comme le couloir de l'Obito, ou ces projets risquent-ils d'être abandonnés au profit d'une approche plus transactionnelle et bilatérale? Transactionnelle, c'est un peu le mot clé pour de Donald Trump.
Mais en fait, je suis un peu optimiste parce que, après tout, si l'engagement est déjà pris et si l'investissement a déjà été à commencer, on peut espérer que ça va continuer. Maintenant, comme on l'a dit déjà, c'est que ce qui est le plus important, c'est comment les gouvernements locaux, comment l'Afrique, va essayer de prendre en charge ces projets et les développer par eux-mêmes. En fait, lorsqu'on voit de près, bon, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a $1 milliard donc, qui a été offert à 31 pays africains. Bon, ça fait à peine $31 millions par pays. Voilà, c'est pas grand-chose. Oui. Mais, donc, en fait, lorsqu'on y pense de près, c'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. Je pense que le discours sur le développement, ça doit être un discours basé sur ce que les gens, ce que nous faisons pour nous-mêmes, comment nous nous prenons en charge, comment nous sommes capables de prendre même le peu qui nous a été offert et les transformer dans quelque chose de bien pour l'avenir de l'Afrique. Donc, je pense que c'est important de ne pas, c'est vraiment important de ne pas exagérer l'importance donc, de ces gestes et l'importance de l'administration Trump. Je pense qu'il faut simplement continuer à réfléchir sur comment on va amener la gouvernance chez nous, entamer un développement basé sur l'innovation, sur le développement des infrastructures, sur la base des programmes locaux, sur la base de la coopération panafricaine. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Voilà. Donc, Trump ou pas Trump, le plus important, c'est que c'est l'occasion pour nous de nous regarder nous-mêmes et de travailler pour l'avenir de notre continent.
Moins de dépendance, n'est-ce pas? Des observateurs sont d'avis que Donald Trump a démontré peu d'intérêt pour l'Afrique lors de son premier mandat. Frédéric Avani, quels ajustements stratégiques les pays africains devraient-ils envisager pour naviguer entre ce que certains décrivent comme un désintérêt potentiel de Washington et la montée en puissance d'autres acteurs comme la Chine et la Russie?
Je crois d'abord qu'il revient aux États africains de prouver de quoi ils sont capables. Comme je l'ai dit, les États ne se donnent pas des cadeaux. Il faut d'abord que les États africains soient des États capacitaires. Parce qu'on ne peut pas aller sur le circuit international, coopérer ou nouer des partenariats, pensant que c'est l'autre qui fera tout le travail qui revient à vous de faire. Je crois que de cette manière-là, ça va motiver l'administration Trump à s'intéresser des États africains parce qu'on ne vient pas en coopération pour recevoir. La coopération, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les Africains ont quelque chose à apprendre des Américains ou de l'administration Trump, et aussi l'administration Trump a quelque chose, n'est-ce pas, de prendre des Américains. Donc cette interdépendance doit permettre à ce que l'administration Trump s'intéresse des Africains. Un autre élément, je crois que le respect des valeurs démocratiques et des valeurs des droits de l'homme vont motiver l'administration Trump cette fois-ci à s'intéresser de l'Afrique parce que aujourd'hui la capacité, en étant une grande puissance, les États-Unis ont intérêt à investir en Afrique, ont intérêt, n'est-ce pas, à déployer son influence dans des régions, dans des zones en dehors de sa sphère de puissance, si je veux parler des États-Unis. Donc aujourd'hui, l'Afrique devient un terrain d'influence de toutes les grandes puissances et les Africains doivent être capables de tirer profit de tous ces partenariats, sinon ça risque de servir de passerelle. La Chine, la Russie, les États-Unis vont venir, mais l'Afrique sera une Afrique malheureuse si on n'a pas cette intelligence stratégique de tirer profit de cette coopération.
Oui, mais Frédéric Amani, très rapidement, justement, puisqu'on parle de grands projets comme le couloir de l'Obito. Alors, il y a certains qui pensent que de tels projets pourraient renforcer la souveraineté économique de l'Angola ou des autres pays concernés par le projet, alors que d'autres croient que de tels projets risquent de reproduire un schéma de dépendance à l'égard des puissances extérieures, justement, puisqu'on en parle en ce moment. Donc, l'infrastructure d'infrastructures contre la souveraineté. Brice, si vous pouvez.
Vous savez, l'un des grands problèmes des développements africains, c'est aussi le problème des infrastructures. Avec ces infrastructures ferroviaires, d'abord, non seulement ça relie les États africains, ce qui est une bonne chose, ça va promouvoir les commerces intra-étatiques, la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, la RDC, et je crois que ce sera une bonne chose. Un autre élément, je pense que la souveraineté ne doit pas être déclamative, elle doit être une souveraineté de fait. Bien, face à l'étranger, on brandit la question de souveraineté, mais la souveraineté, c'est aussi la capacité au niveau interne des États de pouvoir aux besoins de sa population. Donc, les États africains doivent matérialiser ces projets de souveraineté au niveau interne avant de les brandir au niveau externe. Oui. Et je crois que la coopération aujourd'hui doit être une coopération à son multiple, ce que les Chinois appellent une coopération gagnant-gagnant. On donne des infrastructures, mais aussi on profite de ça pour se développer et aller de l'avant.
Cela connaît les engagements pris par Joe Biden, notamment sur le plan économique et humanitaire. Sont-ils susceptibles d'être maintenus sous la future administration Trump? En quelques mots, si vous pouvez.
Ça, c'est une question à $1 million. C'est une inconnue. Nous savons bien.
Je sais que vous n'avez pas une boule de cristal. Absolument.
Le président Trump est connu pour son imprévisibilité, donc on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Nous espérons vraiment qu'il y aura une continuité parce que, bon, comme on le dit, les États-Unis, quand il s'agit des intérêts économiques de leur pays, ils le maintiennent en général malgré toutes les polarisations. Mais là, avec le président Trump, là, il faudrait vraiment une boule de cristal, sinon un peu plus qu'une boule de cristal. Donc, nous espérons qu'il va essayer de maintenir le bon, ce que Sam Nature va juger bon.
Il a fait part de quelques-unes de ses politiques. Le président élu Donald Trump a justement fait part de politiques qualifiées de protectionnistes, telles que des droits de douane pour les importations africaines aux États-Unis, ce qui pourrait mettre un terme aux accords de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, dont le renouvellement est prévu l'année prochaine. Les économistes sont également d'avis que la réduction des prix du pétrole pourrait affecter les économies africaines. Brièvement, Léonard Wantchekon, ces mesures représentent-elles une menace ou une opportunité pour les relations futures entre les États-Unis et l'Afrique?
Bon, je vais dire que c'est une menace, notamment l'augmentation des droits de douane, parce que le développement de l'Afrique passe non seulement par le commerce intérieur qui se passe à développer, je pense que le projet de Lobito va aider, mais également il faut l'ouverture donc, économique vers les marchés européens et nord-américains. Donc ça, c'est un vrai problème. J'espère que ces déclarations sur les douanes, ça ne va pas s'appliquer, parce que si cela se fait, ça va être un vrai problème. Maintenant, tout ce que moi je veux surtout, c'est de voir la possibilité que les États-Unis également contribuent au développement technologique, à l'innovation en Afrique. Je pense que les rapports entre les universités américaines, les centres de recherche américains et l'Afrique, c'est extrêmement important. On ne peut pas continuer d'être seulement des dépotoirs de produits étrangers. Il faut qu'on puisse les fabriquer sur place. Et pour le faire, on a besoin de l'innovation, on a besoin de faire des choses différemment. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, comme mes collègues l'ont déjà dit, mais il faut également que l'aide étrangère que nous demandons, pas seulement l'aide étrangère que les gens nous imposent, si vous voulez, que cette aide étrangère soit orientée stratégiquement vers ce domaine de l'avenir.
Et voilà, vous entendez malheureusement le générique, parce que justement, on arrive à la fin de ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Sona Konaté, Frédéric Amani et Léonard Wantchekon. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Un nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide, ici à Washington, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.